qui est très important, qui ton père et ta mère, enfin, c'est pas si évident que ça. Les liens qui nous unissent avec nos parents sont des liens qui sont forts, sont des liens qui ont pris du temps à se faire, sont des liens qui sont parfois douloureux. Et donc, j'aimerais voir un peu plusieurs questions avec vous, parce que, comme je vous l'ai dit, quitte ton père et ta mère et va vers toi-même, c'est la conjonction de deux aspects bibliques, de deux thèmes bibliques. Le premier, donc, l'appel de Dieu, c'est quitter. C'est la première partie, l'appel de Dieu, c'est quitter. Et vous pensez évidemment à Abraham. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. Et en hébreu, va vers le pays que je te montrerai, c'est va vers toi-même. Hein? Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, tu deviendras une bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront, celui qui te maudira, je le réprouverai, en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que pour aller vers soi-même, pour dire « je », d'une certaine manière, il faut quitter quelque chose. Et dans ce quitter-là, il y a une fécondité. « Je bénirai toutes les nations, hein, tu deviendras une bénédiction. » C'est-à-dire que si cette séparation, et on va voir comment, hein, dans toute vocation, il y a le fait de quitter, mais... et c'est attaché à une promesse aussi, et dire « je », ça veut dire laisser ce qui est connu pour aller vers l'inconnu. Quitter ce qui se fait dans la tête, prendre le risque de penser par soi, ce n'est pas couper le cordon, c'est avoir un cordon de 1000 kilomètres qui me permet d'aller et venir. Et ça, c'est très important. Moi, je ne crois pas du tout à l'expression « couper le cordon ». On n'est jamais... ex-fils, ex-fille, on ne divorce jamais de ses parents. Même défunts, les parents restent les parents. Mais l'enjeu, et c'est l'enjeu de cette soirée, et d'éclairer votre conscience là-dessus, quelle est la juste distance que je vais prendre avec eux? En quoi je suis libre, et eux aussi sont libres par rapport à moi, et cette distance-là, elle va me permettre de porter du fruit, d'être un homme et une femme debout, et de pouvoir aussi, quelque part, être adulte et porter d'autres. Hein. En toi seront bénies toutes les nations de la terre. Et on voit bien que, au fond, dans cet appel, hein, il y a aussi une distance, mais une distance n'est pas un conflit. Celui qui est en conflit avec ses parents n'a pas quitté ses parents. L'ado, typique de l'ado, etc., en conflit avec ses parents, il n'a pas quitté. Si, je pense à un cas, comme je dis, je prépare un mariage. J'accompagne un couple, elle, sa maman a divorcé, est partie avec un autre homme, et elle me dit, là, je la fiancée, c'est fini, je ne parlerai plus à ma mère. C'est pas possible, ça. Qu'est-ce qu'on va écrire sur le faire-part? Non, mais c'est une question. Tu ne penses pas l'inviter à ta messe de mariage? Ni à la bénédiction des fiancés? Ni rien? Vous voyez que quitter n'est pas s'opposer, c'est juste se mettre dans un face-à-face d'alter ego. Je deviens, vous jeunes adultes, un autre adulte face à un adulte qui est mes parents. Mais si je suis encore dans le conflit avec mes parents, c'est que d'une manière ou d'une autre, je ne les ai pas quittés. Alors peut-être eux encouragent le conflit, peut-être, je ne sais pas, ensuite il y a les circonstances particulières, et là évidemment on traite du cas général, mais vous comprenez bien que cette dimension-là, se quitter, il se fait à l'intérieur, il se fait dans la tête. Il se fait dans la tête. Et on va voir un peu les obstacles qui peuvent arriver au fait de quitter. Et donc, du coup, pour devenir pleinement adulte, hein, j'ai besoin d'aller vers l'inconnu et de quitter le connu du monde parental et de ma famille. Hein, et au fond, j'ai besoin de devenir adulte. Mais devenir adulte, ce n'est pas à 18 ans qu'on devient adulte. Ça prend pas mal de temps. Mais ce n'est pas pour ça qu'on n'a pas de lien. D'où la question que je vous ai posée, le petit test un peu sympa du début, hein, qui a les clés, etc., etc. Parce que c'est pas qu'on n'a pas de lien, c'est pas qu'on est indifférent à ses parents, c'est juste qu'on se positionne pour pouvoir dire « je » et parfois ne pas être d'accord, mais pas pour être en conflit avec eux simplement parce que j'ai décidé autre chose. Et tant que je suis dans le mode « je vis pour faire plaisir à mes parents », ce qui est le cas de l'enfant, mais que je ne sors pas de cette manière-là de vivre, eh bien, je n'ai pas quitté. Et donc, il y a une fécondité dans votre vie qui ne sera pas au rendez-vous. Et ça, je pense que c'est bien d'en prendre conscience et de l'intégrer. Et en même temps, c'est quelque chose qui prend du temps. Hein? Du coup, d'autres sont impliqués dans le fait de devenir l'alter ego de ses parents. Un adulte face à un adulte. L'égal des parents et pas seulement la chair de leur chair. Oui, bien sûr, vous êtes la chair de leur chair. Mais vous êtes, on va voir avec l'autre commandement biblique, vous êtes invité à quitte ton père et ta mère, attache-toi à ta femme, hein, et deviens une seule chair, c'est-à-dire deviens, construis-toi dans ton humanité. Et donc, c'est évidemment ces questions-là de lien avec les parents est très important dans la fondation d'un couple. Et j'allais dire, beaucoup d'entre vous, beaucoup en tout cas, je ne sais pas, je ne vous connais pas, mais sont célibataires, en tout cas ceux qui... Mais prenez conscience que le temps du célibat, qui est souvent plus subi que choisi, c'est un temps aussi pour redimensionner le lien qu'on a avec ses parents. Hein, et de prendre conscience d'un certain nombre de fonctionnements, de manières de procéder, etc., qui ont besoin d'être revisités, parce que sinon ça va se rejouer à l'intérieur du futur couple, parce que beaucoup d'entre vous sont appelés à former un couple, ça va se rejouer dans le futur couple que vous allez fonder. Et si vous ne prenez pas cette distance-là, ça va être quelque chose de compliqué au moment du couple. Ça, c'est très clair. Et donc, se démarquer, se différencier. Si vous avez un seul mot, un seul verbe à retenir de cette soirée, c'est « différenciation ». Vous n'êtes pas vos parents. On va prendre un exemple. Vous êtes une fille autour de la trentaine et une super pote t'appelle, etc. J'ai un plan pour cet été absolument génial, une croisière, on va venir avec un tel, il y aura aussi Arthur. Ça pourrait le faire. Donc du coup, il y aura aussi Arthur, il y aura machin. Ah oui, Arthur, tu vois, c'est Arthur. Tu n'as pas raccroché avec ton ami qu'apparaît sur l'écran du portable Tiger Mom, la Moser. Moser qui appelle, tu décroches, ma chérie, je ne peux pas te dire, mais je suis complètement excité à l'idée de ce que nous allons vivre durant cet été. Ah bon ? Ah bon, qu'est-ce qu'on va vivre durant cet été ? Ton père, tu sais, ton père, mais il est d'une générosité, vous êtes le cœur de son cœur, les yeux de ses yeux, la chair de sa chair, il donnerait tout pour vous. Tu sais qu'il est parti en pré-retraite, il a eu un chèque de l'entreprise, et il a dit, non, au lieu de penser à lui, on va vivre un temps tous ensemble, et du coup, il a loué un riad au Maroc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est un riad, qui est une maison de luxe, très agréable, etc., regarde ton mail, là, je t'envoie les photos, etc., tu as un truc de dingue, avec une vue à tomber par terre, voilà. Ça va être un moment mais extraordinaire avec ta sœur évidemment, 4 ans ta cadette, toi t'es célib, 4 ans ta cadette, elle attend le deuxième, c'est une bonne nouvelle, mais c'est un peu énervant, justement c'est du 12 au 19 août, la date que t'avais proposée la très bonne copine. Et pourquoi ? Parce que l'acariate qui te sert de beau-frère s'est fait virer deux fois ou trois fois de sa boîte, et du coup, il a repris une boîte, il n'a que cette semaine, tu comprends ma chérie ? Il n'a que cette semaine, et donc on a pris cette semaine, ça arrange tout le monde. Et elle me dit, et ta maman est presque les larmes aux yeux, mais je me vois dans l'avion avec toute ma tribu, je me vois... Alors note bien, c'est le vol AF-412, départ Roissy, 12h15, c'est bon, c'est tout... Tu viens juste de te prendre un TGV en pleine tête. Comment tu peux dire non à un truc comme ça ? Et pourtant, tu sais très bien que ce n'est pas ta place. Et pourtant, tu sais très bien que si tu n'y vas pas, tu feras de la peine. Et pourtant, tu ne penses qu'il ne faut pas y aller. Ou tu penses qu'il faut y aller. Je ne dis pas ne pas y aller, mais tu as eu l'autre appel avant. D'où l'importance aussi du discernement. du discernement qui nous fait dire qu'est-ce que, de quoi j'ai envie, sans être égoïste, parce que du coup on culpabilise. Comment ne pas culpabiliser avec une proposition comme ça, où ton père met une partie du chèque qu'il a reçu en partant de l'entreprise, comment ne pas culpabiliser, parce que c'est fait par amour évidemment, mais il y a juste un truc qu'on t'a posé, on t'a oublié de poser la même question. Est-ce que tu es disponible? Dans tout ce que je viens de vous dire, il n'y avait qu'une liste d'affirmations. Toi, tu es célib. Alors, ça veut dire quoi? J'ai pas de vie parce que je suis célib? Ça veut dire quoi, ça? Il y a 15 jours, nous parlions, il y avait une retraite de jeunes mariés à Ourscan sur ce thème-là, et un couple nous a témoigné, et un couple qui a 47 ans, 7 enfants, etc., et elle... Même truc, la question de l'organisation des vacances, très intéressant. Et elle dit, elle reçoit un téléphone ou de son père ou sa mère, les 50 ans de mariage de son père. Il se trouve qu'ils étaient pris. Elle dit, c'était le jour, telle heure. Mais elle m'a dit, elle a 47 ans, j'avais une boule au ventre d'appeler papa et lui dire, papa, ce ne sera pas possible, on vous aime. Nous, pour nous, votre mariage, c'est très important. Mais nous, on n'ira pas. Vous voyez, c'est ça la différenciation. C'est être dans une attitude telle que, au fond, et c'est la deuxième partie, abandonner père et mère pour aller vers soi-même, et je cite le passage de la Bible, l'homme dit alors, voici l'os de mes os, la chair de ma chair, à la création de la femme, on l'appellera femme, elle fut tirée de l'homme. À cause de cela, l'homme abandonnera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme et tous deux ne formeront qu'une seule chair. Le mot, c'est pas quitter, c'est abandonner, c'est laisser derrière. En hébreu, c'est azaf, ça veut dire au sens fort, c'est vraiment les lâcher. Mais les lâcher, ils ont aussi leur chemin, tes parents. Sans toi, et toi aussi tu as ton chemin sans eux. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en lien. Et c'est là toute l'ambiguïté de la question. C'est alors j'ai fait des recherches, j'ai trouvé quelque chose qui vous retrouvez certainement sur Internet, qui est très intéressant d'une exégèse de cette partie-là. C'est André Wénin, W-E-N-I-N, de l'Université catholique de Louvain, qui écrit la chose suivante. L'homme doit abandonner ce dont il peut dire qu'ils sont les os et la chair, à savoir ses parents. Il lui faut, dans un processus de différenciation, de séparation, laisser l'univers familier connu depuis toujours. En quelque sorte, il doit quitter le monde sécurisant du même, dans le cadre duquel vient s'inscrire spontanément toute nouvelle relation. On peut alors entrer dans un juste attachement à celle ou celui qu'il a d'abord reconnu autre, loin de toute fusion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit abandonner pour devenir lui-même. Il doit laisser derrière ses parents l'univers familier, passer de du connu à l'inconnu. Hein? Et donc, du coup, c'est intéressant de... Parce que j'aurais accepté que mes parents soient autres que moi et que moi, je suis autre que mes parents, je pourrais accepter l'autre altérité qui est dans le couple. Mais celui qui n'accepte pas que ses parents, s'il pense qu'il doit vivre pour faire toujours plaisir à ses parents, il est dans une fusion, voire une confusion, et donc il n'a pas cette dimension. Mais du coup, au moment de fonder un couple, il aura beaucoup de mal à le voir l'altérité de son conjoint comme vraiment une seule chair, une entité à part. C'est ça que ça veut dire aussi, non seulement une seule chair, c'est l'union de l'homme et de la femme, bien sûr, mais une entité à part, si lui-même n'a pas formé cette entité par rapport à sa propre famille, et continue d'être le fils chéri qui obéit à maman, parce qu'il a toujours fait ça. Il a toujours fait ça. La fille dont je vous parle et qui a redit non à ses parents pour une location de rêve cet été, mais c'est la fille modèle. C'est une fille, elle ne nous a jamais posé de problème, mon père. Marie, elle était une fille exceptionnelle. Les études, C'était les courses de haies. Elle est 20 cm au-dessus de chaque haie. Elle a fait toutes les études directes, pas de problème, contrairement à son frère qui a redoublé le CP. Et donc, du coup, voilà. Elle nous a jamais posé de problème. Et peut-être pour la première fois de sa vie, à 32 ans, elle va dire, il me semble que ma place n'est pas avec vous. Mais tu vas pas bien, Marie? On t'a fait quelque chose? Ah non, 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 non. Ah mais elle fait sa crise d'ado. Non, non. Je vous aime. Je vous aime très fort. Et papa et maman, mais même mon beau-frère, du reste. Mais du coup, non, cette année, j'ai décidé que ce serait bien ça. En revanche, je vous propose l'année prochaine qu'on fasse quelque chose si vous êtes disponible. Vous voyez, elle n'avait pour la... et évidemment, c'est la boule au ventre qu'elle va faire ça, parce que c'est pas le genre de fille, Marie, qui s'affronte aux parents. Jamais elle s'affrontait. Elle a horreur des conflits d'abord, pour commencer. Puis deuxièmement, ça n'a pas été son mode de communiquer, puisqu'elle n'a pas vu d'intérêt. C'est une fille chouette, c'est une fille comme beaucoup de vous d'entre vous, vraiment avec le cœur sur la main, etc. Mais pour la première fois de sa vie, elle s'est rendue compte qu'il fallait se séparer, être autre, être un alter ego, se positionner comme adulte face à un autre adulte qu'est son père et sa mère. Et donc, je trouve ça assez intéressant de dire, au fond, c'est... je vous invite à lire ce papier d'André Ouénin sur cette méditation. Il y a une chair unique, je continue, serait donc un être humain habitant sa différence singulière, assumant sa limite et son manque, sa fragilité qui l'accompagne nécessairement. Ainsi, ce que rend possible le fait d'abandonner père et mère, c'est en quelque sorte de devenir soi-même et de cesser de prendre le partenaire pour l'os de ses os et la chair de sa sœur. C'est-à-dire le partenaire avec qui tu vas faire un couple, ou la communauté religieuse, c'est exactement pareil. Si tu prends parce que la communauté religieuse, c'est une instance maternante aussi. C'est une figure maternante d'une certaine manière. Mais si tu ne te positionnes pas comme religieux, comme homme face à ta communauté religieuse, et du coup, mais que tu restes encore dans cette relation infantile, abritant ton manque, tes peurs d'aller vers le monde et d'être toi, ça, tôt ou tard, ça craquera. Des gens comme ça, il y a eu des tas qui ont quitté la vie religieuse parce qu'ils n'étaient pas eux-mêmes. Et je trouve que ce qui est beau dans la vie religieuse, c'est qu'on te donne des outils pour devenir toi-même et dire non si tu n'es pas là. Moi, par exemple, je vous donne un exemple. Dans ma famille, c'était pas de vague. Et j'ai appris à rentrer en conflit dans la vie religieuse. Alors, c'est pas de bol pour les frères, parce que bon, du coup, ils... Mais j'ai appris à dire que j'étais pas d'accord. Mais alors, il faut que je travaille sur moi encore, parce que parfois c'est trop violent. Mais quand, pendant des années, on t'a mis le couvercle sur la cocotte minute et qu'on a tenu le bouchon, évidemment, quand ça sort pas forcément avec beaucoup de douceur. Et donc, du coup, je crois que c'est important de dire ça, l'espace, du coup, on quitte celui qui a la chair de sa chair et les os de ses os, c'est-à-dire ses parents, hein, pour reconnaître celui qui ensuite est autre et reconnaître une autre chair. Et André Ouénin dit dans son texte, hein, voilà, dans l'espace entre l'un et l'autre s'ouvre un lieu pour un autre, une chair unique, un être unique, le tiers, l'enfant. Dans cette manière d'être, dans cette manière d'être, de se concevoir comme deux adultes, hommes et femmes, chacun ayant dans l'altérité des corps, mais pas que dans l'altérité des corps, dans l'altérité des êtres de leur personne, eh bien, et qu'ils disent, on n'est pas là pour faire plaisir à son mari ou plaisir à sa femme. Alors on peut faire, mais on ne vit pas, mais justement, on ne peut pas vraiment faire plaisir si on n'a pas dit je. Si on n'a pas dit je. On ne peut pas vraiment aimer si on n'a pas dit « je ». On ne peut pas vraiment se donner et être attentionné et honorer, parce qu'il y a aussi un autre commandement, « tu honoreras ton père et ta mère ». Et le même commentateur, André Ouénin, continue, « celui qui n'a pas quitté son père et sa mère ne peut pas honorer son père et sa mère. » Parce qu'il n'honore pas d'une manière adulte. Il reste le bébé, la petite fille, le petit garçon qui veut toujours faire plaisir aux parents. Hein? Donc, c'est assez intéressant. Et dans cette différenciation, il y a toujours une douleur. Il y a toujours une forme de culpabilité, là, dont je vous ai parlé. Mais vous imaginez, prenons d'autres exemples, des choses qui ont beaucoup plus d'importance qu'une location d'été. Vous avez une maison de famille du côté paternel. Et tu as vu toute ta vie ton grand-père, puis ton père, se sacrifier aux quatre veines pour cette maison de famille. Et l'argent qu'ils avaient, c'est une tuile, un volet, une pierre à changer, une allée à refaire, un arbre à planter. Et tu vois ton papa aux alentours de sa soixantaine, etc., encore sur l'échelle, en train de vider les chéneaux, des vieilles feuilles mortes, parce qu'il t'expliquait, sinon l'eau tombe sur le mur, et ça gèle, et ça casse les pierres, etc. Donc il faut vider régulièrement. Bon. Et tu as vu ton grand-père faire la même chose. Et à 15 ans, il t'a pris à part. Il dit, fils, moi j'aimerais bien que cette maison, ce soit pour toi. Tu en as 30. Et tu dis, quand tu vois ton père en train de vider les chéneaux des feuilles mortes, tu te dis, je ne me vois pas comme ça à son âge. Cette maison-là, elle n'est pas faite pour moi. Je vais vous raconter une autre histoire. L'élection du pape François. Le pape François, lorsqu'il a été élu pape, on lui a dit, écoutez, très Saint-Père, on va vous conduire à vos appartements au palais apostolique. Et depuis que le palais apostolique existe, bon, sauf l'épisode de d'Avignon, les papes habite là. Bon, c'est un lieu magnifique, etc. Et le pape raconte, dans son témoignage, et il dit, en moi, j'ai entendu un grand non. Tu n'y iras pas. Et il avait 72 ans, 73 ans, donc il n'était pas a priori en pleine crise d'ado. Donc, et non, tu n'iras pas. Et il est resté à Sainte-Marthe, qui est une maison de retraite spirituelle où étaient réunis les cardinaux. Il s'est fait aménager un deux pièces, et il va avec son plateau au self-service le matin, et pour recevoir les chefs d'État et compagnie, pour le boulot, si j'ose dire, il va au palais apostolique. Si dans ta vie, ce garçon dont je vous parlais, il dit non, et qu'à un moment donné, il aille voir son père et dit, « Papa, je ne reprendrai pas la maison. Je ne la reprendrai pas. » Et que pour la première fois, il voit couler les larmes sur les joues de son père, évidemment, ça remue énormément. Mais c'est peut-être la première fois aussi, parce qu'il l'a dit paisiblement, pas dans la colère, pas dans l'agacement, pas dans la revendication, non. Il dit, c'est pas pour moi. Donne mon frère, ma soeur, peut-être il y a d'autres enfants, vois avec eux. Et du coup, je trouve ça... Et puis, que dire alors? Encore plus compliqué, une exploitation agricole, une entreprise familiale, où on transmet, où la question de la transmission est capitale. Mais c'est intéressant, c'est que transmission vient de tradere, tradition, mais qui a fait aussi le mot trahir. Quelque part, pour transmettre, pour devenir toi-même, tu dois trahir, en tout cas, ne pas te mettre dans les traces de ce que tes parents attendent de toi, ou d'une autre manière, ou dire oui, je vais reprendre la maison, mais ce sera comme ci, mais ce sera comme ça. Vous comprenez? Transmettre et trahir, ça a la même racine. Et c'est pour ça que c'est culpabilisant. Parce qu'on voit que c'est fait dans l'amour de l'autre côté. On voit qu'il y a beaucoup d'amour donné, beaucoup d'énergie mise sur la table, et de sacrifices consentis. Mais tu te dis, ou pas, peut-être tu te dis, je me vois très bien avec cette maison, avec cette exploitation agricole. Oui, mais du coup, tu es en train de penser aussi te marier, tu as ta fiancée, etc. Et évidemment, ça a des conséquences considérables sur les couples. Il y a des couples qui ont explosé à cause de maisons de famille, à cause d'exploitation agricole qui fait d'argent, de ceci, de cela, d'entreprises familiales, et parce qu'on n'osait pas dire non, on ne voulait pas faire de la peine. Il n'y a pas eu un vrai jeu, un vrai oui de prononcer. Et donc, moi, je trouve ce qui est important, c'est le fait de discerner dans sa vie qu'est-ce que le Seigneur me demande, qu'est-ce qu'il me faut, mais pas dans un sens égoïste. Parce qu'en plus, quand on est cato, on se fait un peu des nœuds dans la tête, etc. Oui, mais la Vierge Marie, elle a dit oui, etc. Donc forcément, la Vierge Marie, elle a dit oui, toi tu dis non. Bon, alors, et toi, tu vas à la messe, et tu vas à Spienspi, donc, bon, donc, et on te le ressort opportunément. Bon, oui, d'accord, la Vierge Marie, elle a dit oui. Voilà, mais bon, elle a dit oui, comme elle s'est positionnée face à... Comment cela se fera-t-il, etc. Bon, puis c'est évidemment une vocation toute particulière. Mais je pense que c'est important de vous-même et chacun, voyez vos parents, et que ce soit vraiment dans l'amour, et on parlera du rôle du Saint-Esprit après, mais dans l'amour de se positionner, vous, comme jeunes adultes, grosso modo autour de la trentaine, et là vous avez qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui va faire, quelle est ma terre. Quel est le lieu où je vais porter du fruit? Abandonne ton pays et la maison de ton père et va vers le pays que je t'indiquerai. Va porter du fruit, va porter une fécondité. D'autres sont impliqués aussi dans ce choix que tu fais. Bien sûr le couple, mais aussi tes amis, mais aussi ta fratrie, etc. Donc, je trouve que c'est très beau. Et c'est là où je trouve que ça demande une vie spirituelle profonde. Pour ne pas céder au coup de sang. Non, ça, cette maison, je n'en veux pas, je n'ai ras le bol de cette maison, je ne peux pas la sang. Non, ce n'est pas ça qu'on te demande. Ça, là, tu es encore l'ado. Non. Apaiser ton cœur, c'est ce qu'appelle Ignace de Loyola, offrir l'Isaac du cœur, te remettre dans une attitude de totale dépendance auprès du Seigneur. Et Seigneur, mais. J'ai ce désir qui habite en moi. Pourquoi pas demander un accompagnement spirituel pour cette décision-là particulière, qui est une grosse décision dans ta vie. Dire non à quelque chose que les autres ont prévu pour toi. Et qui est un bien. Forcément, et qui est vécu dans l'amour de la part de celui qui l'offre, ce bien. Eh bien, du coup, je trouve que ça demande une vraie vie intérieure parce que ce n'est pas si facile. C'est pas si facile de décevoir l'attente que les parents ont sur soi. Et en même temps, c'est très important de les décevoir parce que vous tracez votre chemin. Mais votre chemin, qui est un chemin, non pas de caprice, vous me saisissez bien, on n'est pas dans le caprice, on n'est pas dans je fais ce que je veux dans le trépigner. Non, c'est pas ça. Vous avez juste votre chemin. Et vous posez face au Seigneur, c'est quoi mon chemin? Où est-ce que je peux porter du fruit? Où est-ce que Dieu m'attend? Qu'est-ce que le Seigneur veut pour moi? Est-ce que mes parents ont voulu pour moi toute ma vie quelque chose? Et moi, qu'est-ce que je veux? Et c'est peut-être la première fois que tu vas te poser la question. Troisième partie, qu'est-ce qui m'empêche d'abandonner? Il y a beaucoup de choses qui m'empêchent d'abandonner, je vais les lister sans trop m'étendre, mais la peur de dire qu'on n'a plus besoin de l'assistance des parents. Pour un parent, c'est quelque chose qui n'est pas facile à vivre. On va voir la peur des parents aussi. Mais là, je me situe du côté du jeune adulte que vous êtes. La peur de dire qu'on n'a plus besoin de leur assistance, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin, pour notre vie quotidienne, de leur aide. Qu'on rentre dans une relation d'adulte à adulte, une amitié filiale, un amour filial, une piété filiale, mais que ce n'est plus une relation d'aide. Et pourquoi tu as peur de ça? Parce que tu dis, mais est-ce qu'au fond, mon père, ma mère ne vont pas se sentir inutiles? Toute sa vie, ils ont été dans cette relation d'aide envers moi et envers mes frères et sœurs. Et aujourd'hui, je leur dis, c'est bon, ce que vous avez fait, c'est que je peux marcher sur mes deux pieds et me tenir debout, être un homme et une femme debout. Et donc j'ai parfois peur de dire ça, et ça m'empêche de quitter. Peur d'entrer dans la vie qui implique une vie adulte. Et préférer la dépendance sécurisante à l'autonomie. Je préfère la dépendance sécurisante, je préfère le monde connu, je préfère etc. Et donc du coup, que les choses inconnues. Et donc je me replie sur ma famille, je régresse, parce que là j'ai la sécurité. Mais fausse sécurité, c'est une fausse sécurité, parce que la vraie vie c'est pas ça. Bon, les tanguis, ça existe, etc. Mais la vraie vie, c'est pas ça. La vraie vie, c'est au contraire, à quoi est-ce qu'on voit une éducation réussie? Ben, ma fille, mon fils, va, vie et deviens. Va. C'est ça une éducation réussie. C'est pas garder l'enfant pour soi. C'est mettre au monde, et c'est tout le rôle du père dans l'éducation de la famille. Et je vous renvoie à un topo que j'ai donné il y a peut-être un ou deux ans, je ne m'en rappelle plus, qui doit être sur le site de Spi & Spi. En quoi le lien avec mon père détermine encore mes actions. Mais hein, le père aussi met au monde. Il l'envoie au monde. Au-delà d'une sécurité maternelle, etc., il envoie au monde. Qu'est-ce qu'il y a comme peur ? La peur de décevoir ses parents, la peur de leur faire de la peine, la peur de perdre l'image que j'ai de moi-même, l'image que les autres ont de moi-même, et cette image-là, c'est dans les yeux de mes parents qu'elle s'est forgée. La peur de perdre, donc, l'image que j'ai. Et donc... ces images, l'image que j'ai, les images que l'autre a de moi, c'est dans l'éducation qu'elle est advenue. La peur de casser ce qu'on pourrait appeler le roman familial, le mythe fondateur de la famille. Il y a toujours des mythes dans une famille. Par exemple, nous, nous sommes une famille unie. Ça, c'est un mythe. C'est très bien. Mais ma question, nous sommes une famille unie. Mais est-ce que j'ai le droit de ne pas venir en vacances ? Ah, maintenant, tu casses l'union, là. On est une famille unie, c'est-à-dire, grosso modo, tu n'as qu'une possibilité, c'est fait comme tout le monde. Est-ce qu'on accepte l'altérité dans cette famille unie ? Et donc, je remets en question le mythe fondateur de la famille, ce qui semblait être un pilier absolument intangible de la famille. Nous sommes une famille unie, juste parce que je ne vais pas en vacances avec vous. Je me rappelle d'un autre cas, un couple, etc., que j'avais préparé. Vacances dans la belle famille, et il y a des rituels, je suis tout à fait prêt pour les rituels, et comme prêtre, ça ne vous étonnera pas. Donc, je suis pour les, et dans les rituels de ce séjour dans la belle famille, il y a la balade. Il y a une balade, et toute la tribu, et les enfants de tes enfants, et tout le monde là, et le père, il est tellement content de voir tout. Elle dit, non, j'irai pas faire la balade. Gros silence à table. Mais ma chérie, dit son mari, tu es souffrante, tu es... Non, je vais très bien. Cette année, non. Mais tu nous as... Non. Je trouve super de faire une balade tous ensemble. Cette année, non. Alors, vous voyez, donc on a peur de remettre, et c'est important, une famille est unie quand elle laisse la capacité de dire non à l'autre. C'est ça une famille unie. Quand elle laisse la capacité, lors d'une réunion familiale, à ce qu'un ne soit pas présent. Pendant des tas d'années, on a fait dans ma famille, parce qu'on a une maison de famille, etc., on a fait des réunions de famille concernant... Mais toujours mon frère, qui par ailleurs était un peu compliqué... N'était pas là. Mais bon, j'ai toujours dit, ben, il n'est pas là, ben voilà, il a choisi de ne pas être là. Et c'est aussi un mode de présence que l'absence. Et donc, du coup, ça dit quelque chose aussi de ce qui. Ça dit quelque chose aussi de son lien avec la famille. Peut-être un jour il sera là. Et maintenant, c'est lui qui invite aux réunions. Vous voyez. Ce côté groupir, on fait tout ensemble, oui, c'est quand les petits avec les papas et maman, oui, c'est ça. Mais vient un moment donné, mes neveux et nièces, ils ont autour de la trentaine, ils ont vos âges, non, c'est plus possible. On n'est pas tous disponibles même. Mais c'est pour ça qu'on est un mauvais fils ou un mauvais petit-fils, etc. Et qu'on va être désigné. Autre peur qui peut vous habiter aussi, hein, la peur d'être... déçu par ses parents et de découvrir au fond que ses parents sont plus centrés sur eux-mêmes que sur le désir de transmettre. Et qu'au fond, ce qui habitait le désir de vos parents, oui, bien sûr, c'était de vous aimer, mais vous les sentez aussi que ça fait bien aussi autour de montrer une famille comme ça. Autre chose qui fait que je ne m'autorise pas d'abandonner mon père et ma mère, dans le sens que je vous l'ai expliqué, c'est je ne m'autorise pas une vie privée hors des parents. Et ça, Là, j'invite à une attention particulière à tout ce qui est réseaux sociaux, comme par exemple WhatsApp, Snapchat, où on étale sa vie privée aux parents. Et où est votre jardin secret par rapport aux parents? Ah ben du coup on a un groupe de WhatsApp familial. Ah ben oui, c'est bien, mais parfois c'est trop. C'est trop. Alors du coup, on fait la petite photo de la petite qui vient de naître, on a 10 par jour, hein, c'est bien, sympa. Ensuite, en train de manger, en train de... Voilà, sur le pot, puis machin, bon bref. Donc, non, mais oui, mais c'est trop. Vous voyez, c'est... Et du coup, moi, je vous invite, où est votre jardin secret? C'est la même chose que se différencier. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas livré des choses. C'est où est votre jardin secret? Et j'allais dire qu'entre époux, il y a aussi un jardin secret. Un jardin secret qui n'est pas cachotterie, mais qui juste m'appartient. Notre relation à Dieu fait partie de ce jardin secret. Quand je vais me confesser, ça fait partie du jardin secret, et mon époux et mon épouse n'ont pas à être au courant. Et ça, c'est tout à fait clair. Et donc, je crois que cette... manière d'étaler la vie privée, de ne pas s'autoriser à une vie privée, parce que derrière ça, on a peur de ne plus être aimé et de perdre notre place dans la famille et notre rôle dans la famille. Parce qu'on, ben forcément, si vous vous bougez, autour ça va bouger, forcément. C'est comme un pulse. Et donc du coup, autour ça va bouger, et du coup il y a cette peur-là. Mais il peut y avoir aussi une autre peur, c'est la peur de laisser les parents seuls dans en fragilité. Les parents qui sont peut-être, certains d'entre vous ont perdu leur papa ou leur maman, et donc l'autre parent se retrouve seul, veuf ou veuve, bah, des femmes, voilà. C'est, et du coup, je dis, mais si tes parents étaient plus solides que tu ne le croyais? Il faut se méfier d'une chose, c'est ce qu'on appelle la parentification. La parentification consiste à être le parent de ses parents. Et on voit quand il y a un parent défaillant ou un parent fragile, il y a de façon systématique un enfant qui prend le rôle du parent défaillant pour protéger l'autre. Et du coup, j'ose pas abandonner mon père et ma mère parce que je les sens trop fragiles ou je sens qu'ils sont en fragilité, etc. Alors, et du coup, je reste toujours dans cette dépendance infantile, vous m'avez bien compris. Il ne s'agit pas de ne pas aider, de ne pas soutenir. Je pense que c'est assez clair. Un autre point qui m'empêche d'abandonner père et mère, c'est la peur de la solitude. Exister dans la société, c'est le pouvoir d'y être seul. Se débrouiller sans que personne ne te tienne la main ou ne parle pour toi. Certaines solitudes, c'est vrai, parce que quand tu te positionnes, ben du coup, tu te retrouves, c'est à toi de prendre les décisions. Du côté des parents, c'est faire le deuil que le jeune adulte soit enfant et que eux, en fait, ils ne sont plus si jeunes que ça. Ben oui, si tu dis « j'ai décidé que », tu leur fais prendre conscience d'un coup, ben, « tiens, c'est un adulte. Eh bien, tiens, à son âge, j'étais marié, j'étais ceci, j'étais cela, j'avais fait une vie professionnelle. » Tu les fais prendre conscience. C'est ça, quelque part, cette différenciation, elle est difficile à consentir pour les parents, et de sortir de cette relation d'aide et de rentrer dans une relation d'altérité et d'alter ego, c'est difficile parce que, quelque part, ça les fait se rapprocher de la mort. Ils prennent conscience que maintenant, tu es un homme, une femme debout. Et qu'ils t'ont apporté des choses, vous continuerez à dialoguer, etc., mais pas de la même manière. Et ça, ça leur fait prendre conscience que la roue tourne. Que, ah oui, ben, à ton âge, et puis et du coup, le fait de... Du côté des parents, la peur de laisser partir, parce que laisser partir, c'est mourir un peu. Et laisser partir, c'est pas facile. Donc la peur de la mort qui fait partie certainement de ce deuil au fond que doivent faire les parents par rapport au jeune adulte qui n'est plus un enfant. La peur des parents de devenir inutiles. Les parents sont inutiles. Et oui, ils voient que tu te débrouilles très bien, etc. Mais auparavant, ils ne vivaient que par toi. Tu étais l'os de ses os, la chair de sa... Ils ne vivaient que par l'aide qui... C'était ça leur raison d'être. Et puis, il dit, non, merci, maman, c'est bon, c'est bon. C'est marrant parce que, pour illustrer de façon personnelle, là, maman habite Paris, elle a 85 ans, etc. Bon, j'ai reçu à peu près 10 consignes en moins de 3 heures. Donc, alors fais ceci, fais pas cela, etc., etc. Bon, j'ai besoin d'un doliprane. Il dit, tu n'en prends qu'un à la fois. Non, je vais prendre les 30 en même temps. Donc... Non, mais j'ai pas besoin que tu me dises après. Je me doute bien qu'on en prend à la fois. Je veux dire. Mais elle est hyper mignonne, etc. Il est. Mais il ne peut pas s'empêcher. C'est, je sais pas ce que c'est, mais bon. Il faut dire ce que l'autre doit faire. Oui, parce que quand tu étais enfant, elle te disait ce qu'il fallait faire. Et oui. Et c'est normal. Hein? Donc. Voilà, une peur de. L'enfant a peur des parents de devenir inutiles. L'enfant était l'alibi à une vie de couple peu satisfaisante et il se retrouve maintenant dans un face-à-face. Peur des parents de perdre leur identité. Un peu comme dans le jeu des sept familles, ils se sont réduits à être les parents d'eux un tel, de la famille un tel, et maintenant ils voient leurs enfants voler de la propre aile. Ce n'est plus le côté parental qui va les définir, mais c'est plutôt le côté matrimonial hein, qui va les définir et le côté adulte qui va les définir. Sans les enfants. Donc certaines peurs sont là et habitent. Quatrième partie, donc première partie, c'est quitter pour répondre à l'appel de Dieu. La deuxième partie, abandonne ton père et ta mère. Troisième partie, les peurs d'abandonner. Quatrième partie, conflit de loyauté, balance éthique entre mérite et dette. Ça, c'est très important parce que tout se situe là, il me semble-t-il. En naissant, nous avons une dette par rapport à notre famille. Et la Bible le rappelle très bien, dans l'Ecclésiaste, par exemple, il dit « Souviens-toi de tout ton cœur, honore ton père, n'oublie jamais ce qu'a souffert ta mère, souviens-toi de ce qu'ils t'ont donné le jour où tu leur offriras, qu'ils t'ont donné le jour, pardon, que leur offriras-tu en échange de ce qu'ils ont fait pour toi ?» Et toute la Bible, et surtout les livres de sagesse, sont remplis de ces consignes. Et donc, il y a une forme de dette, et en face de ça, il y a la loyauté. Quelque part, l'enfant a perçu que, pour répondre à cette dette, on peut dire, employer un gros mot, ontologique, dans l'être, forcément, que les parents ont donné la vie, et c'est le don le plus grand, qu'est-ce qu'ils ont pour égaler cet amour, pour se mettre à la hauteur, c'est la loyauté. Et parfois, devenir adulte, c'est rentrer dans un conflit de loyauté. Je prends un cas très clair. Dans les couples, on voit beaucoup que ça se joue, ça. Deux cas. Un cas où les couples, l'un et l'autre, étaient de milieux très différents et de religions différentes. Et donc, à un moment donné, l'un a dit à l'autre, écoute, je ne peux... à ce point-là d'altérité avec ma famille, j'y arrive pas. En tant que tel, pourquoi pas, c'est les personnes sont... Mais à ce point-là de différence, aller aussi loin. Et pourquoi? Parce qu'il était pris dans un conflit de loyauté. Est-ce que je suis loyal à ma famille et aux valeurs qu'ils m'ont transmises, catholiques, de l'aristocratie, etc. Ou est-ce que je vais avec toi, qui est d'un milieu tout à fait autre, d'une religion autre? Oui, conflit de loyauté. Le conflit de loyauté survient au fond aussi au moment des divorces. Est-ce que tu es fidèle à papa? Est-ce que tu es fidèle à maman? Oui, on joue, ou les enfants jouent entre l'un et l'autre. Hein, les conflits de loyauté, d'une certaine manière, se vit quand on est pris dans une double contrainte. Double bind, on dit en anglais, parce que c'est des Anglais qui ont mis ça en place, les Américains. Hein, c'est une école de systémie, hein, de thérapie systémique, quoi, qui dit, voilà, soit on aime l'un, soit on aime l'autre. Et on voit bien parfois des éducations qui ont été faites comme ça. Ta maman t'offre deux cravates, une rouge, une verte, tu mets la rouge, t'aimes pas la verte. Tu mets la verte, t'aimes pas la rouge. Mais ça, c'est hyper courant. L'enfant est pris comme en tenaille et ne sait plus où entre ses parents, ou entre ses parents et son éventuel futur conjoint, ou entre ses parents et la décision qu'il a à prendre au propre professionnel. Il est en tenaille. Et donc, le conflit de loyauté, et comment est-ce qu'on sort de le conflit de loyauté? En disant je. Abandonne ton père et ta mère, et va vers toi-même. Sortir du conflit de loyauté qui est culpabilisant au possible. Ça, c'est la quatrième partie, rapidement, parce qu'on ne peut pas tout dire, mais du coup, on en sort en abandonnant ses parents, tout ce que j'ai dit auparavant, et en disant « je », mais on ne passe pas à travers ça. Et à un moment donné, dans nos vies, il y a souvent des conflits de loyauté, et c'est intéressant, en tout cas, de les analyser. Que veut dire, et c'est la cinquième partie, que veut dire « honore ton père et ta mère » C'est ce qui est dit dans l'Exode 20, 12, « honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre, que te donne le Seigneur ton Dieu ». C'est un commandement, donc c'est le décalogue donné à Moïse par Dieu, donc ce n'est pas une petite chose, ce n'est pas une petite parole. Abandonne ton père et ta mère, c'est aussi Genèse, donc c'est la parole de Dieu. C'est un commandement auquel est attachée une promesse. C'est le seul commandement auquel est attachée une promesse. Alors tu auras longue vie sur la terre que le Seigneur te donne. C'est intéressant de voir que honorer en hébreu veut dire donner du poids. Donner du poids, c'est-à-dire rendre lourd, alourdir. Et on peut l'entendre ici dans deux sens. Le premier, c'est d'accorder tout leur poids, toute leur importance à ceux qui ont transmis le don essentiel de la vie, c'est-à-dire les parents, en leur donnant du poids. Mais aussi, c'est se rappeler que la vie est un don et que donner de l'importance à ceux qui nous l'ont offert, ce don, honorer, c'est une pratique qui vient aussi de la vertu de justice. C'est-à-dire, je donne de l'importance à cette relation-là. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas. Je ne dis pas qu'elle ne compte pas. Je ne dis pas que ce sont maintenant, j'ai tiré l'échelle, je ne veux plus de relation. Sauf cas très particulier de parents très toxiques et pathologiques. Ça peut arriver. Où là, il faut vraiment s'éloigner. Mais ça arrive 5%, il y a quelques cas malheureusement, ou maltraitants, etc. Mais on peut être injuste avec ses parents, en ne leur donnant pas, par exemple, assez de temps. Donc c'est intéressant de donner du poids, ça, à la fois dire « je », et à la fois où est-ce que j'en suis dans l'équilibre, dans cette justice, d'avoir une relation ajustée à ses parents. Est-ce que quand je vais les voir, c'est par culpabilité? Est-ce que quand je vais les voir, non, j'ai un vrai plaisir de passer un temps privilégié avec eux, un moment de qualité? Qu'est-ce qui m'habite? Mais alourdir peut dire aussi que du fait des relations avec les parents qui parfois peuvent être lourdes, peuvent être difficiles à porter. En demandant d'alourdir son père et sa mère, c'est-à-dire honorer en hébreu, alourdir, cela veut dire ne pas porter les fardeaux, les espoirs déçus, frustrations à la place du père ou de la mère. Tu ne portes pas les fardeaux de tes parents. Tu leur laisses le poids. Ce n'est pas à toi de les porter. Et là, je vous invite à être attentif à ce qu'on appelle le transgénérationnel. Le transgénérationnel, ces choses qui sont dites deux pères en fils, deux mères en fille, etc. Et toi, tu arrives au bout de la chaîne. Non, ça, des secrets de famille, par exemple. Des secrets de famille, c'est terrible. Ça, c'est vraiment, parfois, c'est des vrais conflits de loyauté, parce qu'il faut en sortir de ce secret de famille. Alourdis tes parents, c'est rends-leur le poids qu'ils ont à porter. Ils ont un poids à porter, c'est à eux de le porter, ce n'est pas à toi de le porter, ce poids-là. Ils ont peut-être de la difficulté dans leur couple, ce n'est pas à toi de porter leur difficulté de couple. À tel point, c'est vrai que, en hébreu, alléger, ça veut dire aussi maudire. Et le chapitre suivant de l'Exode dit « Qui allège son père et sa mère sera voué à la mort. » Donc, nos parents sont plus solides que nous le pensons. Hein, honorons nos parents en devenant nous-mêmes, en faisant que notre vie porte du fruit, et en faisant des, nous des hommes et des femmes debout. Et j'aimerais conclure par cette parole de Jean-Paul, du pape François, concernant le don de piété, parce que c'est ça le don de piété qui est un don du Saint-Esprit. Le don de piété, c'est pas des objets de piété, être une grenouille de bénédiction, etc. La piété filiale, c'est de reconnaître le don et en même temps de reconnaître le don que je suis. Et le Saint-Père dit la chose suivante: le don de piété nous fait grandir dans la relation et la communion avec Dieu et nous pousse à vivre comme ses enfants, et en même temps, il nous aide à reverser cet amour sur les autres. Et c'est ça qui est important. Si je ne vis pas la grande altérité qu'est l'altérité avec Dieu, comment est-ce que je vais pouvoir vivre les autres altérités, l'altérité avec les parents, l'altérité avec le conjoint, avec les amis? Et c'est cette altérité, la communion, demande la transcendance. Et c'est cette communion qui demande la transcendance, le tout autre par excellence, celui qui a du poids à nos yeux, celui qui est la source de tout don et à qui nous appelons notre Père, c'est parce que j'ai une relation privilégiée avec lui que je vais pouvoir poser dans l'amour les différentes distances que j'ai à poser avec ceux qui me sont chers et à qui je dois la vie et à qui je veux donner le meilleur de moi-même. Il y a un rapport étroit, dit le pape François, entre le don de piété et la douceur. Le don de piété que nous donne l'Esprit-Saint nous rend doux, nous rend tranquilles, patients, en paix avec Dieu, au service des autres, avec douceur. Et j'aimerais terminer ce topo par la prière du Veni Sancte Spiritus que vous connaissez et qu'on peut intérieurement, en tout cas je vais la lire en français et on peut l'intérioriser comme en pensant peut-être à ces relations qui doivent être visitées. Viens Esprit Saint, envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous Père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Si vous avez des questions à poser, vous n'hésitez pas à les poser. C'est un thème qui ouvre évidemment énormément de choses. Une relation de toxique qui m'empêche de devenir adulte, qui me maintient comme ça, qui m'oppresse, qui me rabaisse, me fait perdre confiance en moi, une relation toxique. Alors ça peut toxique peut aller aussi à différentes choses. C'est toxique, ça peut être une relation violente, mais c'est une forme de manipulation qui fait que la personne ne peut pas advenir à elle-même. Elle ne peut pas être un homme et une femme debout. Et donc, on sent que la personne se rend compte qu'elle te garde comme enfant, le père et la maman, ou la maman, te garde comme enfant et pour être à sa disposition dans une forme de toute-puissance. C'est une forme de toute-puissance. Et donc, ça, il faut des relations. Malheureusement, il y a des parents manipulateurs. Ce n'est pas la majorité. Mais il y a des parents manipulateurs. Et donc, du coup, parfois, ça demande pendant un temps de l'éloignement. Il y a des parents, j'accompagne un couple, la maman, elle est malade psychiatrique, mais diagnostiquée avec des temps d'internement. Comment se positionner face à une maman qui a une pathologie psychiatrique, donc séparée du papa, et on comprend pourquoi. Voilà, et du coup, et elle, la fille, c'était toujours la fille. Parce que c'est vrai que dans ces trucs-là, je sais pas, il y a peut-être, faut vous m'aider, mais je trouve que les filles portent beaucoup. Beaucoup trop, quelque part. Et donc, la fille, elle a voulu être le soutien de ses parents, de sa maman, etc. Une dépression, même pathologique. Voilà, mais ça, c'est. Et du coup, elle s'est rendue compte qu'elle n'a pas été la mère de sa mère. Elle était ce qu'on appelle parentifiée. Elle n'a pas à être la mère de sa mère. D'autres, il y a des professionnels, il y a des médecins, elle a un mari, elle a d'autres personnes de sa famille peuvent être des recours, des relais, mais ce n'est pas elle de porter. Et donc, une relation toxique, c'est une relation qui me maintient dans une dépendance, mais qui ne me fait pas devenir à ce que je suis.
Est-ce que vous pourriez préciser ce que veut dire aller vers soi-même? Parce qu'on peut mettre une vie à se trouver, trouver du néant en soi-même, ça peut être très compliqué d'aller vers soi-même.
Alors, c'est vrai que je n'ai pas développé aller vers soi-même, c'est aller vers la terre, vers où tu porteras du fruit. Parce qu'aller vers soi-même, c'est vrai qu'on peut passer une vie à aller vers soi-même, et je veux dire, on passe une vie, c'est pas qu'on peut, on passe une vie à aller vers soi-même. Et c'est dans la relation avec le Seigneur que je découvre, dans l'autre en tant qu'autre, que je me découvre comme existant face à Dieu. Et donc, dans sa dimension spirituelle, dans le face-à-face avec le Seigneur, le cœur à cœur avec lui, je me découvre comme adulte aussi, comme aimé, comme créature, mais profondément respectable et profondément appelé à porter du fruit et un fruit qui demeure, comme nous dit Jésus. Donc, aller vers soi-même, c'est vraiment où est-ce que je fleurir là où on est planté. Ne pas accuser les circonstances pour justifier nos médiocrités. Être en vérité avec soi-même. Faire la vérité dans son cœur. À un moment donné, il faut être au clair. Et ça, c'est pas juste dans un face-à-face. En tout cas, ceux qui sont chrétiens, ils ne vivent pas simplement dans un face-à-face avec le miroir. Ils le vivent dans cette transcendance avec Dieu, qui ouvre aussi à la miséricorde. Et qui ouvre, parce qu'il est le tout autre, à un chemin autre en moi-même. Dieu, qui est plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes, a dit saint Augustin. Donc, aller vers soi-même, c'est vraiment. Où est-ce qu'est le lieu où tu vois que c'est vraiment. Tu peux dire, je suis vraiment heureux d'être là. Ça peut prendre du temps, ça peut osciller. C'est pas linéaire, on le sait très bien. Hein, nos âmes sont aussi variables. Mais tu te dis, dans ce métier-là, on va prendre le métier, la vie professionnelle. Aller vers soi-même. Est-ce que je suis. Ce que je suis parce que médecin, parce que on est de génération médecin. Est-ce que je suis chef d'entreprise parce qu'on est de génération. Mais au fond, moi, j'aurais voulu être ébéniste. Mon rêve, c'était d'être un artiste. C'était d'être un artiste. Voilà, j'aurais voulu être un artiste. J'aurais voulu être un artiste. Mais quand on m'a dit que l'artiste, il crève la dalle. Si tu veux te nourrir de quelque chose, bah tu fais une grande école, puis comme tu étais doué, tu l'as faite, et puis voilà, puis en voiture Simone. Mais tu vois, alors du coup, comment, quelque part pour faire plaisir à tes parents, et peut-être parce que la nécessité fait loi, mais est-ce qu'il y a des choses de faire confiance à ce que vous portez, qui aussi peut être déposé par le Seigneur dans votre cœur? Bien sûr qu'il y a la tentation et le péché, mais il n'y a pas que la tentation et le péché dans le cœur d'un homme, d'une femme. Il y a aussi le don de Dieu. Et si on était plus centré, j'allais dire, sur lui, le monde vit par distraction, alors que Dieu, lui, agit par attraction. Il nous attire. L'Église, elle grandit par attraction. on dit vivre comme ça, waouh, ça vaut carrément la peine. Et donc, professionnellement, de poser les choses, de poser un vrai discernement.
Donc, une dernière question, et après, on change de sujet. Bonsoir, merci beaucoup pour votre cours. Je me demandais dans quelle mesure tout ce que vous avez développé sur les relations qui peuvent devenir toxiques dans les familles, notamment la parentification et autres, ça peut aussi se développer dans des groupes d'amis qui, en fait, recréent des liens familiaux et des espèces de petits cocons, mais desquels on a aussi énormément de difficultés à sortir.
Clair, c'est clair. C'est absolument clair. Les amis aussi peuvent être, comme j'ai cité la communauté religieuse comme une instance maternante, mais faussement maternante parce que c'est pas ça sa vocation. La communauté des amis peut être cette communauté faussement, ce palliatif maternel ou paternel ou familial où j'ai ma place, je suis celui qui fait rire, comme j'étais celui qui faisait rire aussi dans ma famille. J'avais cette étiquette et j'étais bien parce que j'existais comme ça. Et c'est vrai que dire « je », c'est parfois dire quitter un certain nombre d'amitiés ou de manières d'être en amitié qui, remarque bien, nie l'altérité. Dans ces cocons, il y en a un qui est un peu leader, voire un peu manipulateur, et tout le monde autour, tout le monde tourne autour, quelque part. Mais du coup, on n'ose pas vraiment se positionner. Et puis, là, le WhatsApp, etc., à fond, on se dit tout, on se cache rien, etc. T'es tellement transparent qu'on ne voit plus. Et c'est clairement, ces groupes d'amis sont des groupes d'amis qui n'aident pas. Et je pense que, merci pour ta question, parce que ça peut tout à fait être le cas.